prochain, l'exposé donc par Frédéric Daigne, va nous parler de la recherche que l'on fait, enfin des activités que nous faisons ou essayons de faire à l'IAP.
Bonjour à tous. Donc pour continuer cette série d'exposés, il me revient la lourde tâche de vous présenter la recherche faite aujourd'hui à l'IAP. Alors, depuis l'époque historique de la Fondation à l'ombre de l'Observatoire, l'IAP s'est agrandi, s'est modernisé et est devenu donc l'institut de recherche que nous connaissons aujourd'hui, un institut extrêmement dynamique et dont vous allez voir qu'il aborde finalement un nombre de sujets de recherche extrêmement importants. Alors, pour donner quelques chiffres pour commencer, aujourd'hui, tout statut confondu, nous sommes à peu près 150 personnes dans cet institut, qui représente donc une force de recherche tout à fait conséquente. Et du point de vue de l'organisation, nous sommes organisés essentiellement par groupes de recherche thématiques, mais avec également une notion de projets transversaux quand les moyens mis en œuvre le nécessitent. Le résultat, c'est une recherche très active qui se traduit par une production scientifique tout à fait intéressante. Et je vais essayer, vous allez le voir, en combinant les techniques d'il y a 75 ans et celles d'aujourd'hui, de vous évoquer ces différents sujets. Alors, vous l'avez vu, au moment de la fondation de l'IAP, un des grands sujets de recherche, et c'est normal parce que c'est un peu la brique élémentaire de l'astrophysicien, ce sont les étoiles. Alors, les étoiles continuent à être un sujet étudié à l'IAP, même si ce n'est plus le sujet le plus dominant dans les sujets de recherche. Et pour vous donner un exemple de choses qui intéressent les astrophysiciens à l'IAP, c'est la rotation des étoiles. Les étoiles tournent sur elles-mêmes, et il y a donc un programme conséquent d'études de cette rotation, qui est quelque chose d'intéressant, parce que la rotation, d'une certaine façon, retient la mémoire de la formation de l'étoile, et la formation des étoiles, ça fait partie des choses qui sont encore pas si bien comprises. Alors, un autre aspect qui intéresse les astrophysiciens à l'IAP, c'est que les étoiles, sont magnétisées et à la surface, il va se passer des choses, des tâches, de l'activité. C'est étudié. Il y a également l'étoile qui émet en permanence un vent de particules, et ce vent vient cogner contre le milieu interstellaire, le gaz très dilué qui entoure les étoiles, et à l'endroit de cette collision, en combinant à la fois des simulations numériques et des observations, par exemple par les sondes Voyager, on peut apprendre des choses très intéressantes sur ce gaz dilué, comme par exemple la valeur du champ magnétique. Une raison qui fait que, une des nombreuses raisons qui font que les étoiles restent de toute façon un sujet très important dans notre discipline, c'est que depuis quelques années, on sait maintenant, et ça a été dit dans le film, qu'une grande majorité des étoiles, sinon toutes, sont entourées d'exoplanètes. De planètes, donc d'exoplanètes, puisqu'elles ne sont pas autour du Soleil. Alors, une des activités importantes à l'IAP, c'est de détecter ces planètes. Alors, comment on peut faire? Première possibilité, vu de dessus, vous avez l'étoile et vous avez la planète. Comme chacun le sait, la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais la Terre et le Soleil tournent autour de leur centre de gravité commun. Et grâce à l'effet Doppler et la spectroscopie, on peut mesurer ce petit mouvement relatif de l'étoile et en déduire la présence d'une planète. C'est la méthode dite des vitesses radiales, qui est mise en œuvre avec des instruments particulièrement performants qui ont été prévus pour ça par plusieurs de mes collègues. Une autre façon de faire, c'est d'attendre que la planète veuille bien passer devant l'étoile, ce qu'on appelle la méthode des transits. Et vous allez le voir, l'intérêt de combiner les méthodes de détection les plus variées possibles, c'est que chacune d'entre elles nous donne une information différente. Et juste pour donner une illustration, ici on aura plus facilement la masse, et là on aura plus facilement la taille. Une troisième méthode, qui est développée aussi à l'IAP, utilise une technique tout à fait différente. Vous avez toujours l'étoile, la planète, vous observez ici, et vous attendez qu'une autre étoile vienne passer devant. Et grâce à la relativité générale, les rayons lumineux vont être affectés par la présence de cette étoile de premier plan. Ce qu'on a fait, un effet de l'antigravitationnel, ici de micro-l'antigravitationnel, une technique sur laquelle, depuis Eros, on a une grande expérience à l'IAP et qui peut être utilisée pour détecter une planète, puisque si on suit la luminosité de l'étoile au cours du temps, au moment où l'autre étoile passe devant, on a une amplification, et s'il y a une planète, il y a une petite modification qui permet de la repérer. L'avantage aussi de ces techniques, c'est que donc elles vont nous permettre à la fois de caractériser les planètes et par exemple d'aller vers une confrontation au modèle de formation. Et puis, ces différentes techniques sont des populations différentes et donc on va pouvoir entrer dans une dimension statistique qui va nous permettre justement de savoir finalement comment les planètes peuplent l'espace des paramètres. Alors, un dernier aspect intéressant, c'est que si la planète a une atmosphère, au moment où elle passe devant l'étoile, la lumière de l'étoile passe par l'atmosphère, et ça peut nous apprendre des choses. Ça peut nous apprendre, par exemple, que certaines planètes très proches de l'étoile s'évaporent, ou ça peut essayer de nous donner des informations très précieuses sur l'atmosphère, sa température, sa pression, sa composition chimique, ce qui est l'objet d'un projet porté par des chercheurs de l'IAP, le projet ECHO, soumis à candidature auprès de l'Agence spatiale européenne. Alors, si on change un peu d'échelle, on s'éloigne, on regarde toujours une étoile, et on fait un spectre de la lumière de cette étoile. Entre l'étoile et nous, il n'y a pas du vide, mais du gaz, le milieu interstellaire. Et donc, s'il y a des nuages de gaz entre l'étoile et nous, qui ont certaines vitesses, bien toujours pareil, grâce à la spectroscopie, grâce à l'effet Doppler, on va pouvoir remonter à la structure de ce milieu interstellaire. Si en plus on a la chance que l'étoile se déplace comme ça, eh bien, en cours du temps, on va décrire différentes lignes de visée et on va reconstituer une carte de ce milieu interstellaire. Cette technique que je viens d'illustrer, en fait, est utilisée à l'IAP non seulement pour le milieu interstellaire, mais on va le voir aussi à beaucoup plus grande échelle pour tracer le milieu intergalactique. Alors, si on s'éloigne encore plus, voilà, les étoiles, maintenant, beaucoup d'étoiles. Alors, beaucoup d'étoiles, ça fait une galaxie. Alors, les galaxies sont aussi un sujet étudié sous beaucoup d'angles à l'IAP. Si vous imaginez une galaxie, alors une galaxie, c'est pas mal de choses, c'est un système assez complexe. Vous avez par exemple un disque, pour certaines galaxies, avec des étoiles, peut-être quelquefois des bras spiraux, de la poussière, du gaz, et puis de la matière noire, dont on ne sait pas si bien comment elle se répartit. Alors, pour étudier les galaxies, et je vais en parler maintenant, mais c'est quelque chose qu'on pourrait dire pour beaucoup d'autres sujets, l'astrophysique moderne utilise des techniques extrêmement variées d'observation et va chercher à la fois à combiner des observations à toutes les longueurs d'onde possibles, parce que tous ces différents types de lumière vont nous donner une information différente sur l'objet étudié, et va aussi chercher à amasser des grandes quantités de données de manière à pouvoir faire une étude statistique des propriétés de ces objets. C'est ce qu'on fait en particulier avec ce qu'on appelle les grands relevés. Alors, cette collecte d'informations est quelque chose qui est pratiqué abondamment par les astrophysiciens de l'IAP. Alors, vous avez ici quelques instruments utilisés. Je vais insister sur certains aspects. Alors, un premier aspect, le rôle des grands relevés. Ce côté statistique, amasser la plus grande quantité de données possible pour pouvoir tracer statistiquement les distributions des données. Eh bien, il y a à l'IAP un projet, un centre de données qui s'appelle Therapix, qui est particulièrement conçu pour cela. Au départ, dans le cadre d'un grand relevé au Canada, au télescope CFHT, et qui s'est ensuite étendu à d'autres types de relevés. L'idée, donc, c'est d'amasser des millions de galaxies, et ça, c'est facile à faire, il suffit de regarder une toute petite fraction du ciel. Ce qui est difficile, c'est ensuite de caractériser toutes ces galaxies proprement et d'en tirer la distribution de leurs paramètres. Ça sert aussi à d'autres choses, j'en parlerai plus tard. À côté de cette activité très importante de grand relevé, il y a une autre spécialité à l'IAP, c'est la conception de logiciels très bien adaptés pour traiter certains types de données ou pour en tirer certains types d'informations. Alors, je peux donner deux exemples, mais il y en aurait d'autres. Il y a par exemple des logiciels qui ont été prévus à l'IAP spécialement pour traiter certaines des données du satellite Herschel qui observe par exemple les galaxies dans l'infrarouge. Il y a aussi une suite développée à l'IAP qui s'appelle la suite Astromatic qui dispose d'un certain nombre d'outils de traitement des images qui permettent par exemple, quand on observe une galaxie, de la décomposer en plusieurs composantes, le disque, le bulbe, etc. Alors, à quoi ça sert d'amasser des données ? Bien sûr, on cherche à caractériser les objets. Alors, on va d'abord caractériser les objets individuels et puis ensuite, éventuellement, tracer leurs propriétés. Alors, je vais donner quelques exemples. Si on observe une galaxie, je vous ai dit, une galaxie, c'est un système complexe avec une interaction entre plusieurs composantes, en particulier entre les étoiles, la poussière et le gaz. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien, par exemple, avec Herschel, on va pouvoir tracer la poussière parce que la poussière est chauffée par la lumière des étoiles et rayonne dans l'infrarouge. On va donc apprendre quelque chose sur le contenu en poussière d'une galaxie. Alors, on va faire ce genre de choses à l'IAP. On va aussi se demander, s'il y a de la poussière, ça masque une partie de la lumière des étoiles. Et donc, on va chercher à apprendre, en combinant avec d'autres longueurs d'onde, comment a lieu cette obscuration. Alors, par exemple, on va étudier cette fois le rayonnement ultraviolet, par exemple dans l'arrêt Lyman alpha, et regarder comment le rayonnement ultraviolet sort ou ne sort pas de la galaxie en fonction de la quantité de poussière. De manière générale, on va chercher à modéliser le spectre des galaxies pour, à partir d'une information extrêmement complexe, qui est donc la quantité de lumière reçue en fonction de la longueur d'onde, avec un spectre qui, en fait, comporte des informations qui viennent de toutes les composantes, par exemple les étoiles, la poussière, le gaz, eh bien, l'idée, c'est que ce qu'on observe, c'est en fait la somme de tout ça, et c'est uniquement par des techniques de modélisation très poussées qu'on peut espérer remonter à l'information brute, séparer les composantes, et donc mesurer des propriétés importantes de la galaxie, comme sa masse, son taux de formation d'étoiles, sa composition chimique. Alors une fois qu'on dispose de ce genre d'outils, et on est particulièrement bien placé à l'IAP avec ce type de choses, eh bien on peut l'appliquer à des échantillons importants, et on va pouvoir commencer non plus à juste s'intéresser à un objet particulier, mais chercher à replacer cet objet dans un ensemble plus vaste, et en fait chercher à placer l'étude des galaxies dans un contexte cosmologique, c'est-à-dire comprendre comment les galaxies se forment, comment elles évoluent. Alors, par exemple, ça va consister à partir d'échantillons importants à essayer de remonter. Alors, je vais plutôt faire un diagramme dans ce sens-là. Vous avez ici l'âge de l'univers et vous allez reconstituer la façon dont, au cours du temps, les étoiles se sont ou ne se sont pas formées dans l'histoire de l'univers. Alors, ce type de données est intéressante parce que, justement, elle nous apprend quelque chose sur le processus de formation et d'évolution des galaxies. C'est quelque chose qu'on va chercher à l'IAP également à comparer avec le résultat d'une modélisation carrément globale de l'univers dans un processus de formation des structures. Comment, à partir d'un univers presque homogène, eh bien, on aboutit à l'univers d'aujourd'hui avec ses galaxies, etc. Alors, c'est une activité très importante aussi à l'IAP que de faire ce type de simulation et de faire ce type de comparaison pour voir si le modèle fonctionne ou ne fonctionne pas. Alors j'en reparlerai tout à l'heure, mais pour rester dans cette idée des observations des galaxies, de remonter à cette caractérisation au cours du temps, le genre de choses qu'on fait aussi à l'IAP, eh bien on va s'intéresser à certaines galaxies particulières. Par exemple, on va s'intéresser aux galaxies dans lesquelles une étoile vient d'exploser, ce qu'on appelle une supernova, ou un cas encore plus extrême dans lesquels un sursaut gamma, j'en reparlerai tout à l'heure, a explosé. Bon, c'est rarement les deux dans la même galaxie en même temps, mais... Admettons, ça simplifie mon dessin. Alors, l'idée, c'est qu'en étudiant spécialement ce type de galaxies, tout d'abord, on sonde une population différente, et puis par ailleurs, en regardant les propriétés de ces galaxies particulières, eh bien, on comprend où explose ce type d'étoile, et on apprend donc quelque chose, on revient au thème du départ, sur les étoiles qui ont explosé. Alors, par ailleurs, ça a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui, ces étoiles sont des usines à fabriquer de nouveaux éléments chimiques. Et donc, un autre aspect important de l'activité de recherche à l'IAP, c'est l'évolution chimique aux différentes échelles. Alors, il y a essentiellement deux types de modélisations qui sont faites. D'une part, dans une galaxie individuelle ou dans un groupe de galaxies, donc une structure relativement petite à l'échelle de l'univers, eh bien, on va suivre l'évolution chimique. On va le faire en particulier pour la Voie lactée et ses voisines. Et l'avantage, dans le cas de la Voie lactée, c'est qu'on dispose d'un grand nombre d'observations, y compris avec une répartition spatiale de la composition chimique. Et puis, à l'autre opposé, on va chercher à faire la même démarche d'évolution chimique, mais cette fois en l'envisageant à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire qu'on va suivre, par exemple, grâce à ce type de contraintes, l'histoire de la formation des étoiles dans l'univers et en déduire l'histoire de l'enrichissement chimique. Alors, je continue avec toujours les étoiles, hein, elles sont au cœur, les étoiles explosent, et en explosant, eh bien... Alors, je vais sûrement sauter, oui, ça c'était un exemple, pardon, j'aurais dû montrer un exemple de simulation, justement, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Les étoiles explosent, pardon, et forment des restes qu'on appelle des objets compacts. Alors, par exemple, une étoile massive va s'effondrer sur elle-même, ensuite la partie externe rebondira, et c'est pour ça qu'on parle d'explosion, et va former, dans la majorité des cas, une étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons est magnétisée, tourne sur elle-même et fait ce qu'on appelle un pulsar. Alors, on n'étudie pas vraiment les pulsars à l'IAP, mais par contre, on étudie la capacité de certains des pulsars à être ce qu'on appelle des accélérateurs cosmiques, c'est-à-dire à pouvoir accélérer des particules à des énergies phénoménales. Et pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on cherche à résoudre le mystère de ce qu'on appelle le rayonnement cosmique. Il règne dans l'univers un rayonnement de particules massives et chargées, qui a un spectre en énergie qui s'étale sur de nombreuses décades. Et pour vous donner l'ordre de grandeur, le LHC accélère jusqu'à 10 puissance 17 électronvolts, l'univers au moins jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts, qui laisse d'ailleurs une marge de manœuvre appréciable pour la technologie humaine. Alors voilà, donc on étudie à l'IAP, est-ce que ce type d'astre est capable de produire ce type de rayon cosmique? Une autre chose qu'on peut faire, c'est toujours certaines étoiles massives, en s'effondrant, ne vont pas donner une étoile à neutrons, mais vont donner un objet encore plus exotique, qui est un trou noir. Alors toute la matière ne tombe pas dans le trou noir, donc il y a autour du trou noir ce qu'on appelle un disque d'accrétion, de la matière qui va finir dans le trou noir, mais très lentement, parce qu'à cause de la force centrifuge, elle va spiraler très longtemps avant d'entrer dans le trou noir. Alors ce type de source se retrouve à différentes échelles dans beaucoup de sources astrophysiques, et de manière générale, l'étude de l'accrétion sur ce type de source est un des objets de recherche à l'IAP. Alors, on sait que dans certaines conditions, ce type de source est capable d'éjecter sous forme d'un jet de la matière à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle un jet relativiste. Alors, c'est quelque chose d'étudié à l'IAP, et en particulier, alors voilà un exemple de trou noir, très étudié à l'IAP, en particulier parce que c'est sans doute au cœur d'une classe de phénomènes très énergétiques, parmi les plus énergétiques de l'univers, qu'on appelle les sursauts gamma, et qui sont modélisés en détail à l'IAP. Au passage, les sursauts gamma, à cause de leurs conditions extrêmes, sont sans doute aussi de bons accélérateurs de particules, et modéliser leur rayonnement à haute énergie, comme observé par exemple par Fermi, permet de caractériser leur pouvoir d'accélérateur et de voir s'ils sont éventuellement une source de rayonnement cosmique prometteuse. Alors, pour faire un sursaut gamma, il faut donc faire un trou noir accrétant. Il y a un autre mécanisme possible, c'est si vous avez deux étoiles à neutrons dans un système binaire, il faut savoir que les étoiles aiment bien vivre par deux, eh bien, les deux étoiles à neutrons émettent des ondes gravitationnelles et finissent par se retrouver et coalescer. Alors, on s'intéresse aussi beaucoup aux coalescences d'étoiles à neutrons ou d'autres objets compacts à l'IAP parce que, eh bien, ce sont des sources très prometteuses d'ondes gravitationnelles et que pour pouvoir détecter des ondes gravitationnelles, il faut d'une part faire des développements instrumentaux extrêmement importants, c'est pas vraiment notre spécialité à l'IAP, mais il faut aussi avoir une capacité à prédire le signal attendu extrêmement bonne, et ça, c'est notre spécialité à l'IAP. Alors voilà, il y a des méthodes de calcul très raffinées qui sont mises au point pour pouvoir prédire le signal d'onde gravitationnelle attendu. Alors, c'est quoi le signal d'onde gravitationnelle? Il faut imaginer que les deux étoiles sont sur un tapis et que font vibrer le tapis. Bon. Je sais pas si ça plairait aux spécialistes, mais c'est mon explication. Alors, je continue. Il y a aussi, là, les objets compacts dont je viens de parler sont des restes d'étoiles. Mais il y a une autre classe d'objets compacts très intéressante qui est assez différente, c'est ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Alors, c'est aussi un sujet de recherche à l'IAP. Il semble que, là encore, au cœur de beaucoup de galaxies, sinon toutes, se situe un trou noir supermassif. Et dans certaines conditions, ce trou noir est actif. Ça veut dire que lui aussi, il accrète et lui aussi, il éjecte de la matière. Alors, on étudie le jet, on étudie l'interaction avec l'environnement, et on se pose plein de questions sur ces objets. Alors, ça fait l'objet de plein de travaux. Alors, par exemple, on va chercher déjà à les compter, à savoir leurs propriétés, leur distribution en masse. Ça va se faire toujours via les relevés. C'est un autre rôle des relevés. C'est maintenant non plus étudier la population totale, mais aller chercher les objets les plus rares, les plus intéressants. Par exemple, ce type de système, qu'on appelle des quasars, le plus loin possible dans l'univers. Alors, on trouve comme ça qu'il y a des trous noirs déjà extrêmement massifs, du milliard de masses solaires, très très tôt dans l'univers. Et donc, une des questions qu'on se pose à l'IAP, c'est comment se forment ces trous noirs supermassifs? Il y a essentiellement deux idées. C'est soit c'est des petits trous noirs qui accrètent le gaz autour d'eux, puis éventuellement les étoiles, soit vous avez une galaxie avec un petit trou noir, une autre galaxie avec un autre petit trou noir, les deux galaxies fusionnent et vous donnent une nouvelle galaxie avec un trou noir un peu plus gros. Puis ça peut être une combinaison des deux. Alors voilà, on va simuler ce genre de choses. On va aussi s'intéresser à l'IAP au l'impact de ce trou noir supermassif sur la galaxie qu'il héberge. Alors, au passage, l'impact s'apparente un peu aussi à l'impact de ces explosions d'étoiles. Simplement, l'échelle n'est pas la même. En particulier, on sait que ce type de système va stimuler la formation d'étoiles dans une galaxie et va également stimuler la capacité de la galaxie à perdre une partie de sa matière vers le milieu intergalactique sous forme d'un vent. Alors voilà, on va étudier ce genre de choses, toujours à la fois via des simulations numériques et via des observations qui vont nous nous renseigner, par exemple, sur est-ce que le milieu intergalactique est enrichi par ce type de processus. Alors, on va encore changer d'échelle, et maintenant, on va s'intéresser aux galaxies quand elles sont en groupe ou en très gros groupe, qu'on appelle dans ce cas-là un amas. Alors là, on commence à arriver à des échelles très très grandes. Les amas, c'est même les structures gravitationnellement liées les plus grosses observées dans l'univers. Alors, quel est le type de question qui intéresse les astrophysiciens de l'IAP sur un groupe de galaxies ou sur un amas de galaxies? Bien sûr, celui-là est plus gros que celui-là. Eh bien, ils vont se demander, par exemple, quelle est la distribution de la masse, alors de la masse de matière ordinaire et aussi de la masse de matière noire. Et pour ça, eh bien, il faut, là encore, mettre en œuvre des techniques d'observation assez subtiles qui sont basées, par exemple, sur des effets dynamiques. On va observer le mouvement des galaxies dans l'amas. Finalement, c'est un peu la même idée que d'observer le mouvement d'une étoile quand elle a une planète. C'est toujours Newton qui est derrière, alors avec éventuellement quelques petites modifications, mais c'est la même idée. Et puis, on va aussi tracer l'amas à différentes longueurs d'onde pour remonter, là encore, à la contribution du gaz, des galaxies, etc., et finalement avoir une carte assez précise. C'est toujours la même idée à toutes les échelles. On cherche avant tout à caractériser les objets avant de pouvoir les appréhender dans une approche statistique. Alors, si on s'élève encore d'un cran, eh bien, on sait, à la fois par l'observation et puis coup de chance, c'est aussi ce que donnent les simulations, que à très grande échelle, bon, je suis pas très fort en dessin de filaments, à très grande échelle, la matière se répartit sous forme de ce qu'on peut appeler une trame cosmique, avec ce qu'on appelle des filaments. Alors, à l'intersection des filaments, c'est là que sont les fameux amas. Il y a aussi des galaxies le long des filaments, mais elles sont moins nombreuses, moins denses. Et puis, entre les filaments, des grands vides. Alors là, eh bien, c'est une activité importante de l'IAP que de chercher à tracer cette structure. Et on va voir, d'une part, que c'est très intéressant de la tracer pour la comprendre, la caractériser, mais qu'elle contient aussi beaucoup d'informations sur notre univers. Alors, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, grâce au grand relevé, et c'est fait, eh bien, faire des comptages de galaxies. Et en faisant des comptages de galaxies avec leur position, on va tracer ce trame cosmique. On peut aussi s'intéresser non plus aux galaxies, mais aux grands vides qui sont entre les galaxies, ici. Et il se trouve que c'est aussi un sujet de recherche actif à l'IAP, que les propriétés de ces vides, leur taille caractéristique, leur évolution, contient autant d'informations que les propriétés des structures qui encadrent ces vides. On peut s'intéresser à la partie la plus diluée, donc celle qui est justement dans ces vides ou à l'interface avec les filaments, et voir si on peut apprendre quelque chose sur les conditions physiques du gaz dans ces régions-là. Alors, c'est pas facile à faire parce que ce gaz ne rayonne pas directement. Mais si on a la chance d'avoir une source très brillante, lointaine, derrière, alors ça, on sait en trouver. On sait trouver, par exemple, des quasars, on sait trouver des sursauts gamma. Eh bien, toujours pareil, c'est la même technique que tout à l'heure. En observant la lumière qui vient de ce quasar et en faisant une spectroscopie à haute résolution, en disant les meilleurs instruments du monde, eh bien, on va pouvoir obtenir une information sur tout ce qui a été croisé le long de la ligne de visée, les surdensités, les filaments, éventuellement des galaxies en formation, des vraies galaxies, tout ce que vous voulez. Chacune d'entre elles, tout au long de l'histoire de cette lumière qui a parcouru l'univers, a laissé une trace dans le spectre. Et nous avons des spécialistes à l'IAP pour interpréter ces traces dans le spectre et remonter à une information sur, par exemple, la structure en densité de l'univers. Si en plus on a la chance d'avoir une deuxième source à côté, non seulement on a avec une ligne de visée une structure le long de la dimension radiale, mais avec deux lignes de visée, on peut remonter à la structure le long de la dimension transverse. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on commence à se faire une carte à grande échelle de l'univers et on peut la comparer, une fois de plus, aux résultats des simulations. Alors, je dois avoir, quelque part, une simulation de grande structure. Voilà, ça, c'est la technique. Alors, un autre aspect qu'on développe à l'IAP, c'est justement de caractériser le contenu de l'univers à très grande échelle. Et on sait aujourd'hui qu'un des ingrédients importants est la matière noire. Alors, la matière noire est un sujet de recherche actif à l'IAP, à la fois pour la caractériser et puis pour essayer de trouver des tests pour identifier quelle peut être sa nature. Alors, je vais vous expliquer comment on peut la caractériser. Eh bien, toujours avec un grand relevé. Si vous observez une galaxie, si vous êtes dans un univers newtonien et que c'est du vide entre la galaxie et vous, la lumière fait ça. Et voilà. Si par contre vous avez la chance d'être dans un univers relativiste, eh bien du fait qu'entre vous et la galaxie il y a de la matière, et comme la matière noire est dominante, c'est principalement de la matière noire, eh bien la lumière fait un trajet plus compliqué, elle est un peu déviée dans toutes les directions. Alors sur une seule galaxie, ça peut faire de temps en temps des effets extrêmement importants, des effets vraiment de ce qu'on appelle de lentilles fortes, qui sont des objets très intéressants à étudier et que nous étudions à l'IAP, mais statistiquement, ça affecte l'ensemble des galaxies. Et donc si on a la chance d'avoir un très grand relevé avec beaucoup, beaucoup de galaxies, et si on est très fort en statistique, ce qui n'est pas mon cas, eh bien on peut mesurer statistiquement cet effet sur l'ensemble des galaxies, qui sont toutes un peu déformées, et remonter à la quantité de matière qui les a déformées, et comme ça mesurer la quantité de matière noire dans l'univers. Alors, on peut aussi chercher à caractériser d'autres ingrédients, comme par exemple l'énergie noire qui a une influence, on le sait maintenant, sur l'expansion à grande échelle de l'univers. Alors ça, on peut le faire aussi en traçant cette distribution de la matière dans l'univers, parce que, eh bien, suivant les différents ingrédients, l'histoire de l'expansion n'est pas la même, et la distribution actuelle de la matière n'est donc pas la même. C'est le genre de choses qu'on fait actuellement, par exemple, avec des quasars lointains ou des galaxies lointaines dans le cadre du projet BOSS. Alors, ce genre de technique va se généraliser dans l'avenir avec un autre grand projet qui est porté à l'IAP et qui est... Suspense. Le projet Euclide. Voilà, donc le projet Euclide va couvrir une surface de ciel beaucoup plus importante que ce qui a été fait avec les relevés que j'ai montrés et va pouvoir exploiter à fond ces techniques qui ont été mises au point sur plusieurs années et contraindre avec une précision bien meilleure les différents ingrédients dont j'ai parlé. Alors pour finir, je vais maintenant parler vraiment de l'univers à très grande échelle. Je vais être obligé d'effacer cette belle étoile. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de l'univers? Bon, ben, ça a commencé, on ne sait pas trop comment. Ensuite, il y a sans doute eu une phase d'inflation. Après, c'était en expansion plus gentille. Il y a eu un moment, ici, 3 minutes, où se sont formés les premiers noyaux. En particulier, l'hydrogène et puis surtout de l'hélium. Voilà. Il y a 4 petits points dans le rond. Alors, ensuite, un peu plus tard, c'est... 300 000 ans, si je ne me trompe pas. Il y a eu l'émission du rayonnement fossile. Alors, je le remplis comme ça, parce que le rayonnement fossile, sa principale caractéristique, c'est qu'il est parfaitement isotrope. On voit exactement la même chose dans toutes les directions. Alors, sauf que non. En fait, il y a des toutes petites anisotropies. Et alors, ici, à l'IAP, il y a des gens qui sont passionnés par ces anisotropies. C'est... voilà. Mais vraiment, ils y consacrent beaucoup d'énergie, quoi. Et puis, ils le font savoir, généralement. Et il faut reconnaître qu'ils arrivent à extraire une information assez intéressante. Alors, ça, je ne sais pas dessiner ce genre de choses. Donc, j'ai une carte ici obtenue avec le satellite Planck de l'ESA. Et voilà, il y a des gens à l'IAP qui ont consacré beaucoup d'énergie pour produire cette carte. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'est que la distribution de ces toutes petits écarts de température, vous voyez l'échelle, on parle de centaines de millionièmes de Kelvin, eh bien, c'est la distribution de ces petites anisotropies contient une information extrêmement importante sur les quelques paramètres qui caractérisent la composition de l'univers et son évolution, et nous renseigne vraiment très précisément sur l'histoire passée et l'histoire future de l'univers. Alors, à l'IAP, on va chercher à les caractériser le mieux possible et à mettre en œuvre certains aspects. Par exemple, voir cet effet de lentille gravitationnelle dont je parlais tout à l'heure, comment il affecte également ce rayonnement fossile, donc qui part de beaucoup plus loin, et les informations qu'on peut en sortir. On va s'intéresser aussi à caractériser certaines propriétés que je ne vais pas détailler, qui sont sensibles aux détails de cette grande physique inconnue de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi une caractéristique de l'IAP, c'est qu'on étudie cette phase très primordiale, à la fois sous l'angle des observations, par exemple avec l'étude du rayonnement fossile et l'analyse en cours dont on attend avec impatience les résultats des modes de polarisation, mais aussi sous l'angle théorique, puisque nous avons des théoriciens ici à l'IAP qui sont spécialistes des différents modèles invoqués pour cette phase et qui peuvent donc chercher à prédire des signatures caractéristiques qu'on pourra comparer aux données. Donc cette réunion de ces deux mondes et se révèle particulièrement fructueuse. Alors, je continue mon petit diagramme. Voilà. Après, à un moment, on ne sait pas trop quand, sans doute avant 1 milliard d'années après le Big Bang, eh bien, les premières structures se sont formées, avec des galaxies et des étoiles dedans. Et puis, c'est pas du tout à l'échelle, non. Et puis, encore un peu plus récemment, on ne sait pas trop pourquoi, l'expansion a changé. Et puis, notre univers actuel, il est là, avec ses galaxies comme on les connaît. Alors, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous avez compris qu'à l'IAP, on s'intéresse à la fois à la caractérisation des objets à toutes ces échelles, et par exemple, sur cette question des premières étoiles, avec les différents ingrédients que je donnais, l'évolution chimique, la façon dont le gaz ionisant, la lumière ionisante peut s'échapper de ses premières structures et affecter son environnement, eh bien, on peut aussi apprendre des choses sur cette époque des premières étoiles. Eh bien, à l'IAP, on va à la fois donc caractériser les objets à ces différentes époques et les étudier dans ce contexte cosmologique sur l'ensemble des 14 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Alors, pour finir, j'ai essayé d'aborder pas mal de sujets, je vais en aborder un dernier. Le projet de l'Institut d'astrophysique de Paris est contenu dans son nom, c'est de l'astrophysique, c'est la physique au service de l'astronomie. Et ce projet est maintenant poussé par les chercheurs de l'IAP jusqu'à ses dernières extrémités, puisque un thème de recherche actuel à l'IAP, c'est eh bien d'essayer de repousser le domaine de validité de la physique le plus loin possible et de voir si certaines de ces hypothèses sont valides ou non. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été évoqué dans un autre exposé. On va s'interroger, par exemple, sur des théories alternatives de la gravité telle qu'on la connaît. C'est quelque chose qui est fait, par exemple, en regardant si cette émission d'ondes gravitationnelles, le jour où on la détectera, est-ce qu'on peut voir si elle est légèrement différente de ce qu'on attend dans le cadre le plus standard, qui est la relativité générale. On peut l'étudier aussi d'une autre façon, en regardant si on change un tout petit peu la façon dont la gravité opère, on va changer un tout petit peu les conditions à cette époque où les premiers noyaux se sont formés dans l'univers, parce que l'expansion n'est pas exactement la même, le refroidissement n'est pas exactement le même, et on va donc prédire une fabrication des différents éléments chimiques légèrement différentes qu'on peut comparer à la composition qu'on connaît de l'univers et savoir si tel modèle est acceptable ou pas. On peut aussi s'interroger sur ces fameuses constantes fondamentales de la physique. Sont-elles constantes? Et pour faire ça, eh bien, là aussi, on peut regarder. Je change légèrement la constante de structure fine. Je produis mes noyaux différemment. Je n'observe pas la composition de l'univers actuel ou je l'observe. Ça donne une contrainte. On peut aussi regarder un quasar. Et on regarde le doublé d'un élément comme par exemple le magnésium. Les rapports des deux longueurs d'onde ne dépendent que de certaines constantes fondamentales. Et si on voit qu'il y a 4 milliards d'années, ce rapport est exactement le même qu'aujourd'hui, ben on sait que les constantes en question n'ont quasiment pas varié. Donc voilà, quand l'Institut d'astrophysique de Paris a été fondé, le projet était d'introduire les idées de la physique moderne dans l'astronomie. Eh bien, je pense que cette évocation que j'ai essayé de faire des sujets de recherche actuels à l'IAP montre que ce projet a été tenu et est encore au cœur de nos préoccupations. Je vous invite, pendant le cocktail, à aller interroger les principaux intéressés dont j'ai essayé d'être le porte-parole. Merci de votre attention.